La dernière fois, on s'était arrêté sur pratiquement la fin du quatrième chapitre. Alors, je vous rappelle juste un tout petit peu, comme ça nous remet dans le bain, la structure de la fin de ce quatrième chapitre. C'était les versets 12 à 19. C'est le thème de la réjouissance au sein de la souffrance. Pourquoi? Alors, un sous-chapitre, parce qu'elle éprouve notre foi. Un autre sous-chapitre parce qu'elle est une participation aux souffrances du Christ. Et dernier sous-chapitre, et on était là, parce qu'elle nous prépare à la gloire de son retour. Alors moi, je vous lis juste ce dernier sous-chapitre, là, ces derniers versets qui correspondent à ce dernier sous-chapitre parce qu'elle nous prépare à la gloire de son retour. Je vous lis ces versets. Et puis, on va les commenter et ensuite on pourra lire le chapitre 5 ensemble. Donc, je vais lire à partir du verset 16. 4, 16. Donc, je lis cette fin de chapitre. Ah, ben ouais, je laisse trouver. 1 Pierre 4, 16. Ok. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et qu'il. Pardon, faut que je m'en prie. Alors, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si les justes se sauvent avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Donc, on voit dans ce passage qu'il y a un jugement qui nous attend. Et ce jugement va commencer par la maison de Dieu. Donc, parfois, si Dieu permet la souffrance, c'est afin de nous préparer aussi à ce jugement, hein. C'est quelque part aussi pour éprouver notre foi, purifier notre cœur. Des fois, les chrétiens peuvent passer par des temps difficiles et ça les fait revenir vraiment recrocher avec le Seigneur. Ça les fait changer peut-être de priorité aussi. Voilà. Alors, bien sûr que ça ne veut pas dire que toute souffrance, c'est un jugement de Dieu, hein, et puis voilà, que c'était bien ce qu'on méritait. Mais parfois, en effet, ça vient vraiment pour nous préparer au jugement final, hein. 1 Thessaloniciens 4, verset 17 nous dit ceci. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec le Seigneur, hein. Nous irons à la rencontre du Seigneur. 2 Corinthiens 5, 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans ce corps. Hein. On va passer devant le tribunal du Christ en allant à sa rencontre et on va recevoir selon ce que nous aurons fait de bien ou de mal. Ça ne veut pas dire qu'il y a un salut au travers des œuvres, hein, c'est pas ça. Mais il y aura une récompense quand même selon notre fidélité à Dieu, selon les priorités qu'on aura mises dans notre vie de chrétien. Donc, tous les chrétiens passeront par le jugement, c'est pourquoi nous devons nous y préparer et ne pas rester insensibles face au péché. Mais demander pardon à Dieu, demander à ce qu'il puisse changer nos cœurs et que voilà qu'on puisse prendre une autre route. Alors, c'est vrai que certains péchés n'auront pas d'incidence pour notre salut, mais chacun recevra selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans ce corps, hein, il y a quand même une rétribution. On est tous pécheurs, ça c'est une chose qui est certaine, hein. Ne serait-ce que par la langue. Celui qui ne bronche pas par la langue est un homme parfait, hein. Mais quand même, hein, pas facile ça. On peut tous broncher par la langue, et ben là on est déjà pécheurs. Si on dit quelque chose qui n'est pas à propos, une pensée qui est pas celle du Seigneur pour un frère ou pour une sœur, voilà, hein, je ne vais pas entrer dans les détails, mais pour dire qu'on n'est pas parfait, mais ça ne va pas remettre en question notre salut. Si par contre, on ne vit plus du tout pour le Christ et un jour, à un moment donné, on le rejette consciemment, ben, le jugement appartient à Dieu, c'est pas à nous de juger, mais le jugement appartient à Dieu dans de telles circonstances. Donc la souffrance qu'on peut traverser nous prépare au jugement à venir, et ainsi nous recevrons de notre Dieu la récompense. 2 Timothée 4, verset 8, ça on avait vu la dernière fois, hein, c'est pour ça que je vais assez vite. Nous recevrons la couronne de la justice, hein. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ce que nous recevrons, c'est l'honneur. Là, je reprends un passage de 1 Pierre 1, verset 7, donc voilà, qu'on avait vu tout au début de l'étude. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voilà, notre foi est mise à l'épreuve et elle est éprouvée par le feu pour que le résultat soit la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Hein? Dieu va nous glorifier, Dieu va nous honorer. Et puis Dieu va nous donner aussi une place particulière dans le millénium. Luc 19 verset 10, il lui dit, hein, au serviteur fidèle, c'est bien, bon serviteur, parce que tu étais fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. On recevra aussi un statut, Matthieu 5 verset 9 à 10, heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux. Hein, ça c'est les béatitudes dans Matthieu. On voit que ces béatitudes là, c'est une espérance que Dieu nous donne, c'est une espérance déjà pour aujourd'hui, mais surtout avant tout pour le royaume de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui ont soif et faim de justice, car ils seront rassasiés. Des fois, dans ce monde, on ne sera pas rassasiés. Mais pourtant, il est dit heureux. Heureux ceux qui ont soif et faim de justice. Si on a soif, et je pense qu'aujourd'hui, on va avoir soif de justice, et quand on voit la situation de notre monde, comment les choses sont gouvernées, ne serait-ce que dans les tribunaux, il y aurait beaucoup à dire. Hein. La justice, des fois, elle sonne plutôt comme l'injustice. Alors, il y a des juges qui jugent justement, mais il y en a d'autres. Des fois, voilà, on est dans une justice humaine. Hein. Des fois, c'est des copinages, etc., etc. Donc, heureux ceux qui ont soif et faim de justice, car ils seront rassasiés.
Mais quand on souffre pour la gloire de Dieu, mm-hmm. Pour la gloire de Dieu, quand on souffre à tel point qu'on a mal et qu'on est mal dans sa peau, est-ce que c'est vraiment pour la gloire de Dieu?
Alors, je pense que ton point, par rapport à la gloire de Dieu, on peut, il pourrait y avoir plein de circonstances différentes. Ça peut bien sûr être lié à des persécutions, mais ça peut être lié à des maladies, hein, que ce soit physique ou même psychique, mm-hmm. parce que Dieu, il connaît les cœurs, et il y a bien des mystères. Et mm-hmm. je pense que le voile sera que levé pleinement quand Jésus-Christ va revenir. Parce que, en effet, telle personne qui traversera, entre guillemets, une vie de galère pas possible, et puis on va se dire, oh, mais alors, pourquoi il a la foi, et puis pourquoi Dieu ne le guérit pas de toutes ces galères. Moi, je doute sur cette foi-là. Ouais. Et puis on verra une autre personne qui peut-être est une chrétienne aussi, où tout lui réussit. Quelle personne recevra plus d'approbation de la part du Père? Je ne sais pas. Ça, le jugement, il appartient à Dieu. Il y a bien des mystères.
Oui.
Jésus a dit, hein, beaucoup des premiers seront les derniers et beaucoup des derniers seront les premiers. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire de notre évangile qu'un évangile pour les pauvres et puis dire que Dieu, il rejette les riches. Dieu, il n'est que du côté de ceux qui sont dans la détresse. Non, on ne doit pas mettre en avant la souffrance. Ce n'est pas ça. Mais pour dire que la mathématique de Dieu n'est pas celle des humains. Je dirais ça comme ça.
Ouais. Ouais.
Mais là, juste, je m'excuse, une petite chose. Il semble quand même que le contexte, c'est quand même la persécution. Hein.
Alors,
la souffrance par la persécution.
Mm-hmm.
Parce qu'on voit quand même que Pierre et Jean, ils ont été persécutés. Enfin, en tout cas, surtout Pierre, hein, bon, puisqu'il est... Il a été crucifié vraisemblablement selon la tradition à Rome. Donc il y a ce côté de souffrance par la persécution. Hein. Là, on est aussi dans cette mouvance là.
Alors de manière centrale dans cette épître, c'est vrai que c'est ça parce que c'est une épître qui avait été, on l'a vu hein, au début de l'étude et puis par la suite aussi. Qui avait été écrit en effet pour exhorter les chrétiens face à la persécution à venir parce que voilà, on était tout proche de persécutions terribles dans l'Empire romain. Mais maintenant, les souffrances, c'est vrai qu'elles peuvent prendre différentes formes. Et. Je peux vous donner un exemple. Là, mon papa, peut-être vous en a parlé. Là, il y a une dame au village qui est décédée d'une sclérose en plaques après plus de 30 ans de maladie. Et puis, c'est une femme qui avait vraiment la foi. Et moi, je me rappelle, elle allait témoigner aussi aux catéchumènes et tout, par rapport à la foi, par rapport à Christ, tout ça. Et puis, ben, sa sclérose, hein, ben, voilà, c'est rampant, hein, ça monte depuis les pieds, gentiment, ça vient, ça paralyse de plus en plus le corps, puis une fois, ça vous paralyse complètement. Donc, c'est, elle, sa maladie, c'était plus de 30 ans de souffrance. Mais, moi, je ne l'ai jamais entendu se plaindre. Et ça, c'est un miracle de la foi. Parce que pour quelqu'un qui endure une maladie aussi terrible que celle-ci, et la dernière fois que je suis allé lui rendre visite, je comprenais à peine ce qu'elle disait. Et puis je voyais que ça la fatiguait vite, même de parler. Mais je ne l'ai jamais entendu se plaindre. Et je sais qu'elle avait mis sa foi dans le Seigneur. Et voilà, c'est quelque chose qui est resté. Et c'est un mystère. Pourquoi toute cette souffrance? Alors, ce n'est pas une persécution de l'extérieur, mais c'est quand même une souffrance. Moi, j'ai envie de dire, quand même pour la gloire du Seigneur. Parce que de voir une personne comme ça, tenue par une maladie aussi terrible, et puis toujours témoigner de sa foi et de son amour envers son Sauveur, il y a quelque chose lors du miracle. C'est pas, je sais pas, j'ai envie de dire, c'est pas humain. C'est la preuve que Dieu avait travaillé profondément dans le cœur de cette femme. Ouais. Ah oui, on est tous en chemin. Alors, je lis juste là, par rapport au tribunal du Christ, Jésus a dit, hein, dans une parabole, Matthieu 25, verset 30, « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Ça, c'est Matthieu 25, verset 30. « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Donc, on peut être serviteur, entre guillemets, mais pas en avoir l'approbation de Dieu. Et ça, on peut penser... Il y a des gens qui portent le titre de serviteur de Dieu, et en fait, c'est des gens qui servent dans des sectes. Hein? Et ce n'est pas à la gloire du Seigneur. Alors, ce n'est pas moi non plus qui vais juger de telles personnes. Le Seigneur sait exactement les motivations de cœur et tout. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un porte le titre de serviteur de Dieu que forcément il est agréé par le Seigneur. Et on ne peut pas mettre notre confiance en n'importe qui. Ce n'est pas parce qu'on passe le seuil d'une église que forcément toutes les personnes qui servent dans cette église-là sont au service du Seigneur. Hein. On peut se retrouver face à quelqu'un qui est là pour servir son royaume quelque part. Hein. Quelqu'un qui veut de la notoriété, qui porte des grands titres ou que sais-je. Hein. Mais en disant ça, je vise pas une dénomination ou une autre. Hein. Je dis ça vraiment de manière très générale. Mais peut-être que vous...
On le voit aux fruits aussi. Hein.
Voilà. Ouais.
Alors, les fruits se dévoilent, hein, tôt ou tard. Hein, quand
Puis on a le cas des pasteurs. Hein. C'est pas parce que c'est un pasteur qu'il est converti. Hein.
Ça arrive, hein, malheureusement. Hein.
Tu vois, on voit beaucoup de places, hein, des pasteurs qui... C'est un titre, c'est pas une vocation. Pour certains, c'est un métier. Je dis pas tout le monde, hein, bien entendu. Non, non, non. Mais on le voit. Je dirais pas dans quelle église non plus, parce que c'est pas à moi de juger. Mais je connais quand le titre de pasteur, mais qu'ils croient pas du tout. Je me demande comment est-ce qu'ils arrivent. Enfin, bref.
Ah, des fois, c'est aussi la...
C'est compliqué.
C'est la théologie qu'ils ont, qu'ils ont suivi, les enseignements qu'ils ont eus, qui des fois mettent la confusion. Hein.
Ouais.
Alors, le verset 18 hein, nous dit « Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur hein? ?» On voit que le salut, ce n'est pas quelque chose de si simple que ça. Et ce verset 18 peut faire penser au Proverbe 11, verset 31 qui dit « Voici, le juste reçoit sur la terre une rétribution, combien plus le méchant et le pécheur ?» Et il y a une rétribution. Il y a une rétribution pour le pécheur et il y a une rétribution pour le méchant. Et nous savons que la voie du salut, c'est la voie large. Non, hein, c'est la voie étroite qui conduit à la vie et il y en a peu qui la trouvent, hein, cette voie étroite. Ainsi, verset 19, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Donc, la souffrance, ce n'est pas la preuve que Dieu nous aurait abandonné. La souffrance, ce n'est pas la preuve que Dieu nous aurait rejeté. La souffrance, ce n'est pas la preuve que Dieu ne nous aime plus. Hein. Non, mais on peut souffrir selon la volonté de Dieu. Et que dans cette souffrance-là, ben qu'on apprenne à remettre notre âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Voilà. Donc ça, ce serait la fin du chapitre 4.
Il y a juste une note hein, que je pense que je dois quand même vous faire partager, qui est intéressante aussi, pour ce verset 19. Constamment, la Bible nous appelle à faire confiance à Dieu, dans les bons comme dans les mauvais moments, que le ciel soit clair ou chargé de nuages, que nos proches soient peinés ou vides. Quels sont les effets de cette confiance? Premièrement, elle permet de surmonter la peur, le pétrin dans la peur, puisque notre Père Céleste saura nous guider, quel que soit le pétrin dans lequel nous nous trouvons. Deuxièmement, elle permet de surmonter la dépression, puisque Dieu peut nous tirer vers la lumière, même si nous sommes submergés par la situation où nous nous sentons abattus. Troisièmement, elle permet de surmonter la haine, puisque même si l'on commet envers nous un tort irréparable, Dieu peut faire évoluer les choses. Nous savons qu'il est fidèle et nous pouvons compter sur lui dans les pires circonstances, car il accomplit ses promesses. Il a créé le monde et il a fidèlement ordonné et gardé depuis la création, qu'il a gardé depuis la création. S'il maîtrise les forces de la nature, il est certain qu'il connaît les épreuves que nous traversons. Voilà, c'était juste. Excuse-moi.
Hein, non, mais c'est bien.
Je pense que c'est un petit complément.
C'est bien dans la ligne, hein, tout à fait. Hein. Ouais. C'est de toute façon le grand mystère de la souffrance. Hein. Et puis, il y a plein de pistes de réflexion par rapport à ce thème. Hein. Mais voilà, c'est avec Dieu. qu'on pourra avoir la force de relever les difficultés qui se trouvent devant nous et de rester affermis dans la foi. Et puis, on n'est pas là pour juger, hein, si quelqu'un passe par une dépression et puis vient douter de l'amour du Seigneur et tout. Voilà, hein, ça c'est autre chose. Le Seigneur est à côté de ceux qui souffrent. Hein, ça c'est quelque chose qui est certain. Alors, on peut continuer pour le chapitre 5. Je vous donne juste une petite vue d'ensemble là, de la structure. Donc, les premiers versets, les versets 1 à 11, nous parlent d'exhortation au sein de la souffrance. Et plus précisément, les versets 1 à 4, sont adressés aux anciens pour faire paître le troupeau. Les versets 5 à 9 aux jeunes hommes vient la conclusion, les versets 10 à 11, puis les salutations finales, les versets 11 à 13. Alors moi je vous propose déjà qu'on lise, parce que je pense qu'on n'arrivera pas aussi loin même, jusqu'au verset 9, et puis peut-être si Georges, toi, tu peux lire le premier verset, puis après on continue comme ça sur la gauche.
Oui.
Un verset chacun.
Donc, voici donc les recommandations que j'adresse à ceux qui sont anciens parmi vous. Moi, je suis ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélée. Prenez soin du troupeau de Dieu qui est sous votre garde, en veillant sur lui, non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement.
C'est le 3.
Bon. Et non point comme ayant domination sur les héritages du Seigneur, mais en telle manière que vous soyez pour modèle au troupeau. Et quand le souverain pasteur apparaîtra, vous recevrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous, jeunes gens, soyez soumis aux anciens, et ayant tous de la soumission l'un pour l'autre, soyez parés par dedans d'humilité, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu.
Projetant sur lui tous vos soucis, parce que c'est lui qui prend soin de vous.
8.
Soyez sobre. Tu veux lire? Soyez sobre, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Tu veux lire le 9?
Si je vois quelque chose. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde.
Merci. Alors, donc, au premier verset, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux. Hein. Là, on voit que l'apôtre Pierre prend aussi le titre d'ancien, moi ancien comme eux, hein, comme ceux qui sont parmi vous. Il se place pas en position d'autorité, en position de supériorité, mais il reconnaît aussi les anciens de l'Église comme ayant autorité sur la communauté. Par contre, il pouvait quand même les exhorter, les encourager, les enseigner. Hein. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens. Et ici, en fait, exhortation, c'est pas un mot, c'est un verbe en grec. Donc, on pourrait traduire j'exhorte, j'appelle, j'encourage, je supplie. les anciens. Hein. Donc si Louis II a traduit un peu différemment, c'est peut-être pour accentuer le côté solennel de ce début de chapitre. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens. Et sur quoi est fondé l'apostolat de Pierre? On le voit. Bonne soirée. Bon coup, ouais. Sur quoi est fondé l'apostolat de Pierre? On le voit ici dans la suite du verset premier. Témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Hein. Il y a vraiment cette espérance de la gloire du retour du Seigneur, déjà présente chez les premiers chrétiens, et témoin des souffrances de Christ. Donc, au travers des souffrances que l'apôtre Pierre endurait, c'est là-dessus aussi qu'il vient fonder son apostolat. Hein. Ce n'est pas sur des grands titres de savoir, d'études. Bon, le Seigneur n'a absolument rien contre les études, hein, mais ce n'est pas là-dessus qu'il fonde son apostolat, mais c'est sur les souffrances qu'il a endurées pour la cause du Seigneur. Pierre ne vivait pas dans la gloire durant son temps sur cette terre. Il n'a pas cherché à vivre dans les richesses de ce monde. Il n'a pas recherché à être connu par les puissants de son temps. Bien au contraire, cet épître nous rappelle à vivre le temps présent qu'il nous est donné, comme 1 Pierre 2, verset 11 nous dit, comme des étrangers et des voyageurs sur la terre. C'est bien là un thème central de cette lettre. C'est aussi ainsi qu'on peut reconnaître hein, un faux ministère, un mauvais serviteur, comme nous disait Jésus avant que je citais. Est-ce qu'il cherche à vivre dans les biens de ce monde? Est-ce qu'il cherche à vivre dans la gloire de ce monde? Est-ce qu'il cherche à être reconnu par les puissants de ce monde? Ou cherche-t-il avant tout à être un jour participant de la gloire qui doit être manifestée? Hein? Ça, c'est quand même deux choses complètement différentes. Si quelqu'un vient prêcher uniquement que dans les grandes églises, se déplace uniquement que en jet, ne veut jamais venir à une réunion de prière ou à une petite étude biblique pour partager la parole du Seigneur, parce que ça ne correspond pas à son statut, on peut quand même se demander quelles sont les motivations qui sont sur le cœur d'un tel serviteur. Verset 2, « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. » Donc, paissez le troupeau, ce n'est pas uniquement le rôle du pasteur, c'est aussi les anciens. Les anciens doivent également, entre guillemets, avoir ce souci-là. Hein. Mais bon, après, je pense que c'est le souci de tout frère et de toute sœur de s'inquiéter. Pas de soucis. Hein.
On a pas fait, on a déjà.
En tout cas, ça lui a fait. Bon, elle tient pas longtemps.
Mais c'est pas grave, ouais.
Mais c'était tip top, ça lui a fait du bien sur la souffrance. Bah
oui, puis ça lui a fait une sortie.
Ouais,
puis,
voilà, ouais, ça fait, c'était ouais. Vraiment le bon message.
Ouais, ouais, ouais. Merci, hein, ciao. Donc, prendre soin des brebis, c'est pas la fonction que du pasteur, hein. Mais c'est également celle des anciens. Et pour bien remplir son mandat, un ancien ne doit pas le faire par contrainte, mais volontairement selon Dieu. On ne doit pas forcer quelqu'un à prendre un rôle d'ancien. C'est vraiment volontairement que la personne doit faire ce choix devant le Seigneur. Donc, quelque part ici, parce que le titre d'ancien, c'est quand même quelque chose d'important dans l'Église. Hein. C'est pas un titre à négliger. C'est vraiment un appel que le Seigneur pose sur la vie de quelqu'un. Mais ici, volontairement selon Dieu, on voit que c'est avant tout un choix de la personne. Et des fois, on a des super apôtres, entre guillemets, qui désignent tout le collège, hein, où c'est très pyramidal. Puis c'est le super apôtre qui lui discerne les dons et les capacités et tout ça, et qui lui vraiment chapeaute tout. Mais des fois, ben, en fait, ce modèle-là devient un système assez de contrôle. Parce que ce qui est important, c'est que la personne qui rentre dans une fonction d'ancien, elle puisse le faire volontairement selon Dieu. Donc c'est la personne elle-même qui doit savoir, avant tout, si c'est Dieu qui l'appelle. Et puis, ça ne veut pas dire que le collège des anciens est aveugle, hein, des dons qui sont donnés. Mais la responsabilité, avant tout, incombe à la personne qui accepte de prendre cette charge-là. Hein. Pas qu'on vienne dire un jour... ah ouais, mais c'est toi, hein, c'est toi qui m'as demandé si je suis dans une galère pareille maintenant, c'est ta faute. Hein. Non, c'est notre responsabilité, mais je pense que ça c'est de manière générale aussi. Les choix importants qu'on fait pour notre vie, ben c'est devant Dieu qu'on les fait. Et puis on ne peut pas dire à quelqu'un, parce qu'on était demandé des conseils, ah mais j'ai suivi tes conseils et puis c'est ta faute si aujourd'hui je suis dans cette galère. Hein. Un choix pour un conjoint, un choix pour un travail, etc. Ces choix importants, eh ben, c'est volontairement et devant Dieu qu'on doit les faire. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, bien si vous voudriez rajouter quelque chose. Ou,
Ouais, juste ici, encore une chose, mm-hmm. Ici, son identification aux anciens est un bon exemple. Donc Pierre, des qualités d'un responsable chrétien. Elle montre que l'autorité biblique est basée sur le service, non sur le pouvoir. Mmh, mmh. Et puis, encore une chose que j'ai trouvé bien, les anciens sont les responsables de l'Église qui ont pour tâche la protection, la discipline, l'instruction et la direction des autres croyants. Et puis, les anciens assumaient de grandes responsabilités et l'on s'attendait à ce qu'ils montrent le bon exemple. Mmh. Enfin, voilà.
Oui. Oui, comme étant le modèle, hein, c'est ça, mm-hmm. Du troupeau. C'est un défi, hein.
C'est pas facile.
C'est un défi, parce qu'on rêve plutôt envie de dire, mais le modèle c'est Jésus. Alors oui, le modèle c'est Jésus, on est d'accord. Mais quand même, en tant que responsable, on doit aussi être des modèles. Hein. On peut pas seulement dire, oui, mais moi je sers le maître, et puis il faut pas regarder moi, hein. Je fais un cas à ma tête, mais Jésus, il est plus grand que ma tête. Non. Voilà, hein, Dieu doit modeler nos cœurs aussi, et puis nos motivations. Et puis, en effet, en tant qu'ancien, on n'est pas là pour dominer ceux qui sont sous notre responsabilité. Pourquoi ? Parce que l'Église ne nous appartient pas. Hein. Le troupeau, il ne nous appartient pas, quelque part. Hein. On sait à qui appartient le troupeau. Le troupeau appartient à Jésus.
Et qu'on a la volonté de servir et non par obligation aussi.
Voilà, ouais. Ouais.
Aussi ça.
Oui, c'est vrai.
Le service, non par obligation.
Ça c'est aussi un danger, hein, qui peut vite nous rattraper. Parce que des fois, on s'engage dans une certaine fidélité, bon, qui n'est pas faux, mais peut-être on peut mettre de côté la joie du service. Parce qu'on se trouve dans une situation difficile, puis on se dit, bon, ben, on y va. Puis on perd notre joie au service. Hein.
Ouais. Mm-hmm. Oui, non, ça se résume à ça, au passage, le 5, là, quand on regarde. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement. Mm-hmm. Tout est là, le secret, il est là. Mm-hmm. Si on se lance dans une tâche qu'on veut faire pour le Seigneur, c'est pas parce qu'on a un but de vouloir dominer, mm-hmm. ou chercher un gain quelconque, c'est uniquement un dévouement. Mm-hmm. Et c'est ce qui nous manque énormément maintenant dans les églises actuellement. Vous m'excusez de rajouter cet aparté, parce que c'est le dévouement. Parce que dans une église, que ça soit pastorale, les serviteurs, enfin, tout ce qui englobe une église, c'est un dévouement. Pas uniquement venir comme ça, voilà, je suis là, comment ça va. C'est le dévouement, ça veut tout dire, hein, dévouement. On se donne, Donc, quand il y a un dévouement, on se donne. Bon, on peut peut-être au départ partir parce qu'on nous a sollicité pour un service. Peut-être on n'était pas prêt ou pas encore ou quoi que ce soit. Mais moi, je pense que c'est Dieu qui touche les cœurs. Celui qui prend la décision quand même de s'engager, même si au départ c'était un peu flottant, il le fait par dévouement. Et puis on le voit, comme il disait Pierre, par les fruits qu'il porte, par le service qu'il fait dans l'œuvre du Seigneur. C'est là qu'on le voit. Parce que le gars qui n'a pas de dévouement, eh ben, il n'y a qu'à voir. Hein.
Ben, c'est qu'il ne l'a fait pas fait volontairement, comme dit la Bible.
Voilà, et puis il n'y a pas de discipline, comme tu viens de le lire. Il n'y a pas de discipline, chacun vit un peu à la porte-pièce, il n'y a pas un canevas précis, parce qu'il manque ce fameux dévouement. Ça veut tout dire, hein, le mot dévouement, c'est dans tous les domaines hein, de la vie chrétienne, hein, le dévouement. Et ça peut s'appliquer à la famille, celui qui est marié, qui a des enfants, qui a une famille. Il y a aussi un dévouement là, vis-à-vis de la famille aussi. Hein, c'est pas uniquement je me marie, j'ai des enfants, et puis alors olé olé, hein, comme on dit. Hein. Il y a un dévouement, malgré il y a des sacrifices, malgré les épreuves qu'on peut passer. Et tout est rattaché au dévouement et à l'humilité, comme on vient de lire aussi tout à l'heure. Hein. Les anciens doivent être revêtus aussi d'humilité. Mmh. Voilà, moi je
oui, l'engagement.
Alors, voilà, l'engagement, c'est dévouement. Hein.
Fidélité.
Fidélité. Fidélité, engagement, dévouement, c'est un tout. Les trois facteurs, c'est un tout.
C'est ça. Hein. Donc, il ne doit pas le faire pour un gain sordide, voilà. Mais par dévouement. Donc, un gain sordide, on peut penser aussi à l'attrait de l'argent. Hein. Il y a malheureusement des gens qui, bon, on connaît le thème, hein, mais qui prêchent l'évangile de prospérité. Mais en fait, ceux qui prospèrent, c'est ceux qui le prêchent. Et puis les autres, ça
fait rire. Ils ont donné, puis il n'y a que lui qui ramasse.
Voilà, c'est un peu comme le jeu de l'avion.
Aux États-Unis, il y a beaucoup de ces trucs-là, hein, énormément là-bas.
Donc, on ne fait pas ça non plus.
C'est un peu des gourous. Hein,
oui. Puis, ça amène les sous. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup.
Là. Ah, il y a des sommes énormes, des fois, qui sont brassées.
Et en jeu, hein. Ouais, c'est effrayant, des fois. Bon. Nous, on est je me connais tout petit, ici. Mais aux États-Unis, il y a beaucoup de... C'est effrayant, des fois.
Donc, qu'est-ce que cherche le serviteur hein? La notoriété, est-ce qu'il cherche un titre? Est-ce qu'il cherche l'argent? Est-ce qu'il cherche le pouvoir? Est-ce que, voilà, hein? Ou est-ce qu'il a vraiment le souci du troupeau? C'est ça, hein? Est-ce qu'il désire voir les gens grandir dans leur foi? Voilà. Et...
On pourrait aussi juste dire que le service, il n'est pas donné exclusivement aux anciens. Hein.
Non.
Tout membre dans l'Église peut être au service du Seigneur, dans l'Église aussi, par le don qu'il a reçu. Chacun a reçu des dons.
Tout à fait. Hein. Et puis on a, en effet, on a une responsabilité hein, en tant que serviteur de Dieu. Ézéchiel, je vous lis juste ce passage-là. Ézéchiel 33, verset 6, je pense que la plupart connaîtront. « Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai le sang à la sentinelle. » Il y a une responsabilité aussi en tant qu'ancien. On doit prévenir du danger. Voilà. Hein. Et on sait que Jésus, dans son rôle de serviteur, il a payé le prix fort. Et Pierre dit, hein, moi témoin, et non seulement témoin, mais participant, témoin, oui, des souffrances de Christ. Mais ce n'était pas un témoin juste lointain. Ce n'est pas qu'il avait vu simplement les souffrances du Christ. Alors oui, il les avait vues, mais il les avait vécues aussi. Hein? Pierre, Paul qui va dire que les souffrances... Alors je ne me rappelle plus exactement comment c'est formulé, mais que les souffrances que Christ n'a pas vécues, ben, lui, il est parfait dans son corps. Hein? Je ne me rappelle plus exactement la formulation du verset. Ça vous dit quelque chose, plus ou moins hein? Pour...
Non, comme ça...
Parfait.
Je ne l'ai plus en tête comme ça, mais c'est un peu cette idée-là. C'est-à-dire que ce que a vécu comme souffrance, comme persécution, l'apôtre Paul, c'est quelque chose qui vient à la suite de, déjà de tout ce que le Christ lui-même avait souffert. Voilà, on porte les souffrances du Christ. Il y a une continuité. Si le maître a souffert, il ne faut pas être surpris que nous, on va aussi souffrir en tant que serviteurs. Alors, si nous travaillons avec fidélité dans la maison du Seigneur, voici la promesse. Et lorsque le souverain pasteur, c'est qui? C'est Jésus, bien sûr. C'est le souverain berger. Paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Donc, nos peines ne sont pas vaines. Mais bon, attention, servir le Seigneur, ce n'est pas que des peines et de la souffrance. on vit aussi des choses extraordinaires. Et on peut aussi se réjouir de l'appel que le Seigneur a posé sur chacune de nos vies. Parce que Dieu a posé un appel sur chacun d'entre nous. On a tous un appel à le servir, avec différentes fonctions. Avec différents dons, avec différentes qualités, et parfois un ministère. Oui, après, des fois, le Seigneur lève des personnes pour des charges particulières. Mais ça, c'est avec le temps qu'on découvre. Des fois, c'est en forgeant qu'on devient forgeron aussi. Des fois, il y a des choses qui sont sur notre cœur, et puis ça grandit. Puis Dieu fait porter des fruits. Et ça peut même nous surprendre. Parce qu'on va peut-être servir là où on pensait qu'on n'avait pas forcément les dons. Parce que Dieu choisit les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Et ça
c'est extraordinaire. Qu'il utilise la faiblesse, notre faiblesse, pour nous utiliser.
Des fois, on voit. Pardon, oui.
Oui, non, c'est tout ce que je voulais dire.
Moi, ça me fait penser par rapport à Ibeto, l'école biblique que j'avais fait là, à Orvin. Des fois, ceux qui finissaient premier de classe, ce n'est pas ceux qui ont continué à servir le Seigneur. C'est un mystère. Ça ne veut pas dire que c'est une loi, c'est pas ça. Mais des fois, on se dit, ça ne veut pas aller bien loin. Et puis, 20 ans après, il est toujours à fond dans le service, gloire à Dieu. Parce que la démarche était sincère et que l'appel était véritable sur la vie de cette personne. Alors, on sait bien, on peut faire quand même encore par rapport aux jeunes. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Être jeune ici, je ne crois pas que c'est seulement être jeune dans la foi, mais c'est un peu comme un comparatif avec le terme d'ancien. Donc ce titre de jeune, c'est un peu comme s'il s'adressait à toute l'assemblée des croyants. Vous qui êtes jeune, vous qui n'êtes pas en fait dans une fonction d'ancien, soyez soumis, ça veut dire ayez de la déférence, du respect, écoutez les conseils ou les avertissements. Avoir aussi une attitude volontaire de coopérer, on est tous ensemble au service, afin d'assumer les responsabilités et les charges de l'Église. Et une des clés pour cela, c'est l'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. S'humilier, c'est avant tout une attitude. Une attitude de cœur. Et s'humilier, ce n'est pas le fait de faire quelque chose devant les hommes. Y a quelqu'un qui pourra faire des grandes courbettes devant les hommes, mais en fait, dans son cœur, il ne s'est pas humilié devant Dieu. Alors, ces courbettes-là ne sont pas très utiles. L'important, c'est d'être humble devant le Seigneur, parce qu'il y a une promesse qui est liée à cette humilité. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Et s'humilier devant Dieu, au verset 7, nous indique aussi que c'est une attitude où on va se décharger sur lui de nos soucis parce qu'il prend soin de nous. S'humilier devant Dieu, c'est bien ça. Seigneur, je t'abandonne ma vie, je te laisse les choses entre tes mains. C'est toi qui es mon guide. Je ne suis pas maître de mon destin, je ne suis pas maître de ma vie, mais je te laisse prendre la direction et que ta volonté soit faite, hein, sur la terre comme au ciel. Sur la terre, c'est bien sûr, c'est dans nos vies et dans nos églises, y compris pour cette volonté-là. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, recherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde.
Certaines versions disent qu'il se laissera dévorer. C'est quand... C'est encore plus que qui dévorera si on se laisse dévorer. Ça veut dire qu'on ne résiste pas à ce moment.
Ouais, oui. Il y a un verset parallèle, hein, qui dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Hein. » c'est ça, hein. C'est une clé, c'est se soumettre à Dieu. Et c'est ainsi qu'on peut ensuite combattre l'ennemi.
Ce qui est le terme de, avec une foi ferme. Mm-hmm. Et alors là, c'est réel. Mm-hmm. Alors on dit non, et puis il s'enfuit. Mm-hmm.
Amen. Hein. Mm-hmm. Ouais, c'est clair. Hein. Si on est un petit peu hésitant, ben alors là, il profite. Hein. Ouais. Ah Seigneur, hein, c'est vrai. On n'est pas désarmé, hein, face au lion rugissant. Le Seigneur, il nous a donné des armes et il nous a donné la victoire. Et on est appelé à aller de victoire en victoire. Soyez sobres, c'est-à-dire, hein, je reprends verset 8, soyez sobres, veillez votre adversaire le diable. Soyez sobre, c'est pas simplement au niveau de l'alcool, hein, mais c'est une attitude de cœur aussi, c'est-à-dire avoir de la retenue, être modéré, hein, avoir de la modestie. Veiller nous fait penser, bien sûr, à la prière, mais aussi à une attitude de prudence face aux manœuvres du diable qui cherche à détruire l'Église. Cet adversaire, il est coriace, hein, et des fois, il nous surprend au contour. Bon, attention, je ne suis pas en train de prêcher la peur du diable, hein, ce n'est pas du tout ça. Hein. Mais le malin est malin. Hein. Et des fois, il peut nous surprendre. On voit que dans ce passage, on a vu, hein, on a étudié, que c'est un passage qui nous parle du rapport entre les anciens et les jeunes dans la foi, mais aussi, moi je pense, hein, on peut élargir ça à toute personne dans l'Église. Ce n'est pas que les jeunes dans la foi qui devraient se soumettre aux anciens, puis les autres, ils font ce qu'ils veulent. Hein, je ne pense pas que c'était la pensée de l'apôtre Pierre. Eh bien, que dans cet enseignement de l'apôtre Pierre, comment vivre les relations au sein de l'Église entre les anciens et le reste de l'Église, on doit veiller aussi justement à nos rapports mutuels, pour que notre adversaire, le diable, qui rôde comme un lion rugissant, ne vienne pas à dévorer une des brebis. Hein? Donc on est bien dans un combat spirituel. Et ce combat spirituel, bien sûr, peut se dérouler dans notre vie personnelle, mais également aussi dans le cadre de la maison du Seigneur. Donc il est comme un lion rugissant, il cherche à nous faire peur, il cherche... à sa future proie à dévorer. Et nous, que devons-nous faire? On ne va pas lui préparer un barbecue, hein, pour qu'il puisse griller sa proie. Hein. Au contraire, comme Anna nous a dit, on va lui résister avec une foi ferme. Lui résister, c'est s'opposer à lui, refuser qu'il prenne le dessus sur nos vies, sachant que les souffrances que nous pouvons endurer, d'autres frères en Christ le supportent également sur cette terre. Et ça doit nous encourager à persévérer avec fidélité sur le chemin de la foi. Voilà, il y a bien des exemples qui nous ont précédés et même autour de nous, des gens qui vivent des choses difficiles dans leur existence et pourtant ils persévèrent sur le chemin de la foi. Et je crois que ça, c'est le plus beau des cadeaux. Quand on peut dire non au diable, C'est pas parce que je vis ça de difficile que tu vas prendre le dessus sur moi. Hein. C'est pas parce que je traverse un moment éprouvant que ma vie va devenir un chaos et que je vais retourner dans mon existence passée. Alors voilà, moi j'aurais plus ou moins fini pour soir. Je ne sais pas s'il y a des remarques encore. Pour garder la conclusion pour la prochaine fois, puis les salutations. Puis on verra comment on pourra finir cette étude. Le Seigneur prend soin de nous, hein, dans nos afflictions, dans ce qu'on peut endurer pour la foi. Le Seigneur prend soin de nous. Il est là, jour après jour. Et il nous conduit, il nous relève, il nous affermit. Il nous rend, les souffrances peuvent nous rendre inébranlables, hein, en Christ. Donc, c'est vrai que les persécutions, les difficultés qu'on peut traverser au début, hein, peuvent nous sembler être un sujet de tristesse, mais avec le temps, elles peuvent produire un fruit.
Principe de justice.
Amen.
C'est ce qui est mis.
Voilà. Ouais. Et qui portera une gloire éternelle.
Ce qui est encourageant, c'est les exemples qu'on peut avoir actuellement aussi. Mais je pensais justement à cet officier français, Arnaud Beltrame, qui a donné sa vie pour une dame qu'il ne connaissait pas du tout. Donc c'est un homme qui avait vraiment une foi incroyable pour mourir pour une autre, personne. Donner sa vie. Non, ça c'est juste un petit aparté. Mais c'est des choses encourageantes parce que ça nous montre que dans ce monde, il y a encore des gens qui, qui ont cette foi incroyable en Jésus, quoi, en Jésus-Christ, et qui a même été prêt de donner sa vie. Donc c'est du reste, les médias actuellement, et de temps en temps, il y avait encore aujourd'hui dans le Figaro, il y avait vraiment sur ces héros, on pourrait dire des héros de la foi. Alors qu'il aurait eu tout pour plaire, hein. Il était en train de se... Il allait se marier.
Oui, oui.
Ouais.
Bah, il a écouté son devoir, hein. C'est ça, hein.
C'est-à-dire qu'il est, je pense, c'est la foi qu'il a... Son devoir, oui, en tant qu'officier, mais c'est plus que ça, parce que ils ont tous reconnu qu'il aurait très bien pu, en tant qu'officier, rester où il était.
Ouais. Mais c'est clair, c'est quelque chose qui se perd aujourd'hui dans la fonction, hein. Mais bon, il y a des gens, voilà, hein, y a c'est vrai que des témoins comme ça ne manquent pas, hein. On peut penser à des gens qui font don d'un rein aussi, hein, quand même des fois au péril de leur vie, hein. Là j'ai vu sur 20 minutes là, hier, c'était un monsieur qui se promenait le long du Doubs, là, vers le saut du Doubs, vous avez vu, hein,
ouais, sur l'expression. Il a plongé à 25 mètres pour aller sauver.
Il fallait que cet Américain soit là, parce qu'autrement le monsieur il aurait peut-être coulé, hein, vu qu'il avait un bras cassé. Il est sauté de 27 mètres, il faut déjà être un peu entraîné, hein. Mais il l'a fait quand même au péril de sa vie aussi. Ça serait aussi plus mal fini. Hein.
Ouais. Et ça, c'est tendance à disparaître, tout ça.
Mais c'est triste comme il a dit, il a pensé à ses ancêtres, il a tué, il a pensé à tout ce qui est devant lui, il leur a demandé « protégez-moi » et plouf, il est tombé, il se sentait bien à ce moment-là.
Ah, j'ai pas vu cette partie-là.
Les anges gardiens.
Bon, dans les fraises d'aujourd'hui.
Ah bon, les anges gardiens, d'accord.
Oui, non, oui.
Son grand-père qui est mort, il a demandé de le secours, de l'aider.
Oui.
Bon. Voilà.
Alors il a hésité, mais tout à coup il a eu un calme. Alors il savait maintenant il peut sauter. Parce que notre dame avait dit aussi, il avait hésité, il avait vu que. Il avait
ouais, c'était hésité. Tailleux, ouais.
Mais quand il a vu le jeune avec le visage dans l'eau, là, il n'a plus hésité. Il a sauté.
Mais 27 mètres, c'est une sacrée hauteur. Hein.
20 dos, mètres, hein. Oui, j'en ai 20 mètres.
Parce que juste 27, à côté de la chute, hein, juste à côté, minutes, le saut 27, du,
à côté du saut du Doubs.
Juste à côté, ouais, à proximité du saut du Doubs. Tu sais, il faut te lancer de 27 mètres. Hein. On se rend pas compte.
Hein, c'était hauteur, un bon nageur, hein. On peut sûrement.
Mais il a dit aussi, il ne savait pas s'il va s'écraser sur un caillou.
Ah, là, ah ouais, la profondeur.
Il ne savait pas, il a des rochers. C'est pas une jolie piscine, non. C'est plein de rochers. Il a dit, il ne savait pas s'il allait s'écraser.
Il s'écrasait aussi à place.
Ouais. Voilà, aussi ça, tomber sur la tête ou quoi que ce soit. Ouais, hein. Ouais, il a pris, il a dit, du reste, dans l'article, c'est marqué. Dans, hein. Dans l'article, c'est marqué. Il ne savait pas s'il allait s'en sortir aussi. Hein. Donc, quand il s'est lancé, il s'est. En définitive, il ne savait pas s'il allait y rester lui aussi.
Parce que tu sautes
dans une
maison comme ça.
Dis-nous, des fois.
Il y a celui qui connaît le fond de la rivière, mais lui, il ne le connaissait pas.
Ah non, non. Il ne savait pas. Et tu vois le noyé, le français, parce que c'était un français celui qui est tombé dans l'eau, là, qui se noyer. Et des fois, ceux qui vont se noyer, ils te noient avec eux, hein. Ça arrive aussi des choses comme ça. Le sauveteur, il vient te sauver, puis après, c'est celui qui va se noyer, te noie aussi avec lui, quoi, en même temps, hein, parce qu'il s'agrippe.
Il y a eu un cas, je crois, comme ça aussi, il n'y a pas si longtemps. Je sais pas si c'était avec les migrants ou quoi, ils avaient plongé, puis la personne est morte, et puis l'autre a été sauvé. Ça peut arriver.
Ah, c'est dur. Bon, ben, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci.